On va donc ouvrir la parole de Dieu ensemble. J'aimerais lire deux textes d'introduction avec vous ce matin. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. On va lire dans Galates un autre texte. Galates chapitre 5. Verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté ? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Dans ces deux passages, il y a un verbe, une expression, un mot qui revient d'ailleurs à d'autres moments, à d'autres reprises dans les différentes épîtres de Paul. Paul emploie à plusieurs reprises ce verbe et aussi ce mot, c'est le mot et le verbe courir. Course, courir. Dans le premier passage que nous avons lu, l'apôtre Paul évoque et prend cette image de l'athlète qui court dans le stade. Et il court de façon à remporter le prix. Il s'est entraîné pour cela. Jusqu'au jour J ou jusqu'au jour où il va courir dans le stade et afin de remporter une couronne, une médaille. Et il va le faire au prix de certains sacrifices. Puis dans Galates, l'apôtre Paul prend aussi cette image et en disant aux Galates, vous courriez bien. Donc eux aussi, quelque part, si on reprend cette image que l'apôtre Paul a prise dans les Corinthiens, ils étaient dans le stade, ils étaient là sur les starting blocks et ils ont commencé la course. Et ils l'ont commencé bien, cette course. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé dans leur course? Il y a eu un coup d'arrêt. Et ça arrive parfois lorsque on voit certaines compétitions sportives, ça arrive parfois des athlètes qui connaissent un coup d'arrêt pour différentes raisons. Peut-être qu'en pleine course, une crampe à la cuisse se manifeste, ou peut-être un problème au cœur, ou peut-être autre chose encore. Mais à un moment donné, certains athlètes connaissent un coup d'arrêt. Et ce qui est vrai dans le domaine sportif, puisque Paul Paul prend cette image, l'est aussi dans le domaine spirituel. Vous courriez bien, qui vous a arrêté? Ce matin, j'aimerais parler avec vous des coups d'arrêt. Nous connaissons parfois dans notre course avec le Seigneur des coups d'arrêt. Nous sommes, eh bien, les uns et les autres en train de courir une course extraordinaire. Et nous voulons aller jusqu'au bout de cette course. L'apôtre qui a écrit l'Épître aux Hébreux écrit ceci au chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il y a donc là une course, il y a une carrière qui nous est ouverte. Et nous sommes encouragés dans ce passage à courir avec persévérance jusqu'au moment où nous allons franchir la ligne d'arrivée. Ne nous arrêtons pas avant, afin que nous puissions dire, comme l'apôtre Paul le dit par ailleurs, « J'ai achevé la course ». Alléluia ! J'ai achevé la course. L'apôtre Paul peut le dire à la fin de sa vie. Il sait qu'il n'en a plus pour longtemps, qu'il va mourir. Eh bien, en martyr, il va être exécuté par les autorités de l'Empire romain. Mais il sait qu'à ce moment-là, il a fini la course. J'ai achevé la course. La ligne d'arrivée, elle est là. Et nous voulons, nous aussi, courir jusqu'au bout, courir avec persévérance. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un marathon. 42 km et quelques. Il faut quand même le faire. Hein. Beaucoup qui font la course de marathon savent très bien qu'ils ne vont pas finir le premier. Mais ils font tout pour au moins finir la course. Et déjà, ils sont contents d'eux s'ils arrivent à courir 42 km et quelques poussières de mètres. C'est énorme. C'est énorme de courir ainsi pendant des dizaines de minutes, pendant des heures. Pour certains, les plus expérimentés, eh bien, vont peut-être le faire en 2 heures et quelques, mais d'autres vont peut-être mettre 4 heures à le faire. Mais ce qui importe pour eux, c'est de franchir la ligne d'arrivée et ainsi ils seront contents. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course, dira l'apôtre Paul, et nous voulons ne pas nous relâcher et aller jusqu'au bout, sachant ce qui nous attend après. Nous n'allons pas hériter d'une couronne corruptible comme les athlètes dans le stade, mais nous allons hériter d'une couronne incorruptible. Que Dieu soit béni pour ce qu'il nous réserve dans sa gloire. Mais on va parler des Galates. L'apôtre Paul va dire même quelque chose de terrible. Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. Qu'est-ce qui se passe chez les Galates? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, après avoir bien démarré, ils ont bien couru, vous couriez bien, qui vous a arrêté? Il est question de quelqu'un. Qui? Pas de quelque chose. Mais il est question de quelqu'un qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc, les Galates ont dû faire face à une influence due à certaines personnes qui enseignaient certaines doctrines. Et cette influence-là les a arrêtés sur cette course chrétienne, sur cette vie de foi. À un moment donné, ils se sont arrêtés. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé chez les Galates, il faut quand même qu'on dresse un peu le tableau des Galates. Les Galates avaient donc bien démarré dans la foi. Ils ont écouté la prédication de la foi. Il y a même eu, si on lit cette épître des miracles qui s'est passée. Et certaines personnes leur ont dit qu'il fallait absolument, pour pouvoir être sauvé, observer certains rites de la loi de Moïse, en l'occurrence et spécialement la circoncision. Mais en fin de compte, en enseignant cela, on enlève tout le message de la croix, puisqu'il est avéré que nous ne pouvons pas être sauvés en obéissant à la loi de Moïse. Aucune personne, aucun homme, aucune femme n'a pu observer cette loi de Moïse. Aussi, le Seigneur est venu sur la croix, il nous a libérés, il nous a affranchis et il nous fait marcher avec lui. Dans le chapitre 3 des Galates, l'apôtre Paul dira ceci aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? On pourrait même traduire qui vous a enchanté, qui vous a séduit, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est terrible. Là, on voit encore cette même image. Ils ont bien commencé, ils ont commencé par l'Esprit. Ils ont marché par l'Esprit, ils ont bien commencé, puis à un moment donné, il y a eu une influence qui est arrivée, une séduction qui est arrivée, et ils finissent par la chair. Ça me fait penser à certains rois d'Israël. Ils commençaient bien leur règne, ils marchaient avec Dieu, ils marchaaient dans la crainte de Dieu, et puis ils se laissaient séduire par différents courants d'idéologie qui pouvaient exister, par différentes séductions, par la séduction aussi du péché. Et ces hommes, après avoir bien commencé, à un moment donné, eh bien, ils finissaient par la chair. Puissions-nous vraiment prendre cela en considération, qu'il y a des influences, des séductions, des fascinations qui existent aujourd'hui, comme cela a toujours existé, et qui viennent déjà arrivent à nos oreilles, on les entend, ces influences, et qui font leur chemin dans notre cœur, à tel point même que cela, à un moment donné, va nous arrêter dans notre course. Et pour reprendre l'apôtre Paul, dans son équipe, certaines personnes ont aussi été influencées à tel point qu'ils ont arrêté la course. Mais comme l'apôtre Paul, puissions nous dégager de tout cela et courir jusqu'au jour où ce sera notre heure de partir dans la gloire du Seigneur. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Il nous a rendus libres. Alléluia. Ne nous mettons pas sous l'esclavage de la loi, ici en l'occurrence, de la loi de Moïse. Mais ne nous replaçons pas non plus sous l'esclavage du péché. Ne nous replaçons pas non plus sous l'esclavage d'aucune passion, d'aucune culpabilité qui pourrait être mise dans notre cœur. Nous voulons considérer que le pardon et la victoire, nous l'avons en Christ. Nous voulons considérer que le pardon et la liberté, nous l'avons en Christ. Que Dieu soit béni. Nous voulons courir jusqu'au bout dans cet état d'esprit-là. Il est vrai que lorsque l'on court, et ça sera mon deuxième point, eh bien, nous pouvons nous essouffler. La fatigue et l'essoufflement peuvent, elles aussi, créer une telle influence que, eh bien, nous nous arrêtions sur notre course, dans notre course. On va lire un texte qu'on connaît bien dans Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancèlent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Avons-nous déjà été essoufflés lors d'une course ? Il est parlé de ces adolescents, de ces jeunes qui se fatiguent et qui se lassent. Je me rappelle, lorsque j'étais au collège, le prof de sport nous faisait faire le tour du stade, 3 tours, 4 tours. Il y avait là des jeunes hommes, des jeunes filles, qui déjà au bout d'un tour commençaient à tirer la langue. Il y avait ceux qui avaient de l'entraînement, qui avaient de l'endurance, et 3-4 tours de stade ne leur faisaient pas peur, mais d'autres se fatiguaient vite, s'essoufflaient vite. Les adolescents, les jeunes hommes, les jeunes filles aussi, chancèlent. Pourtant, on pourrait dire, mais ils sont pleins de vigueur, pleins de force. Mais ils arrivent à se fatiguer. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Il est vrai que dans notre course chrétienne, nous pouvons connaître des temps de fatigue, des temps d'essoufflement, et même on s'est tellement donné, on y a passé du temps, on y a passé de l'énergie, et à un moment donné, dans notre course chrétienne, voilà, on est complètement lassé, complètement fatigué, parce qu'on ne voit pas que les choses bougent, il n'y a rien qui avance, et on a l'impression de faire du surplace, et on se dit à ce moment-là, eh bien, à quoi bon continuer? Et voilà, il y a un phénomène qui se passe, là, il y a un découragement qui se passe, et on a besoin de s'arrêter. Mais le problème, c'est qu'il y a un danger lorsqu'on s'arrête. Il y a toujours un danger lorsqu'on s'arrête. Aussi, ce qu'il nous faut faire, ce n'est pas de nous arrêter, mais c'est de se confier en l'Éternel. Ce que nous faisons n'est pas vain dans le Seigneur, à moins que nous le fassions sans le Seigneur, psaume 127. Mais si c'est fait dans le Seigneur, même s'il y a de la fatigue, même s'il y a de l'essoufflement, eh bien le Seigneur est celui qui est capable de renouveler notre force afin de pouvoir continuer. Continuer dans notre témoignage chrétien, là où nous sommes, c'est parfois difficile. Au sein de la famille, au sein du lieu de travail, du voisinage, il y a là des choses qui sont difficiles et nous essoufflons. C'est une chose de courir sur du plat, mais quand ça commence à monter, même des faux plats, eh bien, il faut encore plus d'efforts. Et la vie chrétienne, c'est ainsi. Eh bien, nous avons des difficultés, nous avons des soucis et nous voulons que les choses avancent. Cela est vrai dans notre vie de tous les jours, dans notre travail, dans notre investissement que nous pouvons faire, parce que nous voulons être à la gloire du Seigneur. Nous voulons être à la gloire du Seigneur. Mais rappelons-nous d'une chose, que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et si parfois, eh bien, nous nous sommes arrêtés, on courait, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, on a commencé à faire les choses sans le Seigneur. Et quand on fait les choses sans le Seigneur, c'est sûr qu'on va s'essouffler, on va s'arrêter. Sans lui, on ne peut rien faire. Alors nous voulons vraiment, en toute chose, nous confier en celui qui ne se fatigue point, en celui qui ne se lasse point, verset 28. Le Seigneur est celui qui est capable, qui est tout-puissant pour renouveler notre force afin que nous puissions courir sans jamais nous lasser. Que Dieu soit béni. Alléluia. Mais il n'y a pas que l'essoufflement et la fatigue ou les séductions, les influences qui pourraient nous arrêter sur notre marche. Il y a l'opposition. L'opposition. On peut connaître l'opposition sans être essoufflé, sans être fatigué. On est en pleine forme, mais on connaît l'opposition et cela peut nous arrêter. Et j'aimerais prendre un exemple, c'est celui de la reconstruction du temple, un exemple que j'ai pris un mardi soir, il n'y a pas si longtemps, lors d'une étude biblique. Et le temple avait été détruit par l'armée babylonienne, par Nebuchadnezzar, et bien des années après, le temple a été reconstruit. Mais il n'a pas été reconstruit en une seule fois, il faut bien comprendre quelque chose. Il y a eu un réveil spirituel, à tel point que même l'Éternel a réveillé l'esprit d'un roi païen, Cyrus. Et ce roi païen, Cyrus, qui a eu son esprit réveillé, a autorisé ceux du peuple d'Israël qui étaient disposés de retourner en Israël et de reconstruire le temple. Nous pouvons lire dans Esdras quelques versets, Esdras chapitre 4, sous la conduite de certains hommes, le temple a commencé à être reconstruit. Avec Josué et puis le Zorobabel, ils ont commencé à reconstruire le temple. Il y avait bien sûr quelques-uns qui cherchaient à les intimider, mais ils ont pris courage et ils ont continué. Puis à un moment donné, on va le voir, il y a eu un coup d'arrêt. Après cet élan, ils ont commencé à construire, mais il y a eu un coup d'arrêt à cause de l'opposition. On va lire quelques versets au chapitre 4, verset 4. Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. On va sauter quelques versets. Une lettre a été faite à un roi en suivant, au roi Artaxerxès, et la conséquence de cette lettre va être l'arrêt des travaux. Au verset 23, aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eût été lue devant Rehum, Shimshai, le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par la violence et par la force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. L'opposition, les cabales, les complots. Tout cela fait que l'ouvrage s'est arrêté. Après un bon démarrage, ça s'est arrêté. Arrêté. Alors, ça ne paraît pas, mais quand il est dit au verset 24, jusqu'à la seconde année, il faut bien se dire que ça fait environ 20 ans. C'est pas rien quand même. Quasiment une génération. 20 ans d'arrêt. C'est pas 6 mois. Hein. Pendant une vingtaine d'années, les travaux du temple, la reconstruction du temple, ont été arrêtés. Cette opposition qui a fait arrêter le temple a produit quelque chose dans les cœurs des enfants d'Israël. Et on voit ça dans les livres du prophète Agée et Zacharie. Car il faut lire Esdras en parallèle avec Agée et Zacharie pour bien comprendre. Et qu'est-ce que ça a produit ? Au départ, bien sûr, de la déception. Ils n'ont pas pu continuer la reconstruction du temple. Ils ont été arrêtés. Mais petit à petit, s'est installé en eux, peut-être au départ un certain fatalisme. Bon, ben c'est comme ça, on n'y peut rien. Et puis, la négligence, la paresse. Ils se sont arrêtés, ils se sont complus dans cet état dans lequel ils se trouvaient, à tel point même qu'ils n'intercédaient plus l'Éternel pour pouvoir continuer les travaux. Il y a eu un relâchement terrible. Cette opposition a mis en place dans leur cœur un certain relâchement, une négligence. Aussi, le prophète Agée et Zacharie, bien sûr, envoyés par le Seigneur, vont remotiver le peuple, mais ça va durer quand même 20 ans. Au chapitre 5, verset 1er, Agée le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Oui. Alors bien sûr, on ne va pas lire les prophètes Agée et Zacharie, ça serait fort intéressant, mais au risque d'être trop long, simplement dire qu'il a fallu que le Seigneur envoie ces deux prophètes pour tout à nouveau remotiver le peuple, pour qu'il se ressaisisse et redémarre la course, qu'il puisse redémarrer la reconstruction du temple après 20 ans d'arrêt. Vous savez, Dieu est patient. Hein, Dieu est patient. Et il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes influençables. Il sait que parfois, à la moindre opposition, on s'arrête et on arrive au fil des jours à se complaire dans une situation où on se dit, mais de toute façon, on n'y peut rien, on ne changera pas les choses. Mais le Seigneur sait très bien, par son esprit, nous remotiver, alléluia, afin que nous puissions redémarrer la course. Ce n'est pas évident quand on redémarre une course, hein, parce que les muscles ils sont peut-être un petit peu ankylosés. Hein. Mais le Seigneur est un Dieu patient. Le Seigneur est un Dieu miséricordieux. Le Seigneur est celui qui redonne toujours une seconde chance à son peuple, à ses enfants. Et il nous fait aller de l'avant. Eh bien, nous voulons écouter la voix de l'Esprit de Dieu. Nous voulons nous placer devant le Seigneur. Seigneur, est-ce que j'ai besoin dans ma vie de me reconsacrer tout à nouveau afin de continuer la course avec ce même zèle que j'avais au départ? Puissions-nous faire le point dans notre vie? Vous savez, quand on se convertit, qu'est-ce qui se passe? Ah, on est tout feu, tout flamme. Oui. Hein? On manque d'un peu de sagesse. Mais on est tout feu, tout flamme. Ah, tout est nouveau pour nous. Voilà. On voit les choses différemment. On a du zèle. On témoigne de notre foi à tout le monde. Puis les années passent. Les années passent. On gagne beaucoup en sagesse. Ah ça, on a gagné de la sagesse. Hein. Mais la flamme, qui vous a arrêté? La sagesse, la vraie sagesse, je parle, la vraie sagesse, n'éteindra jamais la flamme. Au contraire, elle la canalise. Et afin de la rendre plus forte, afin de rendre sa lumière plus forte. Alors, nous voulons dire, Seigneur, touche mon cœur, afin que je puisse redémarrer la course. On pourrait trouver dans la parole de Dieu d'autres coups d'arrêt. Par exemple, celui de la prise de la ville d'Aï. Il y a eu Jéricho juste avant. Quel démarrage en beauté. Cette victoire de Jéricho fut éclatante. La première victoire qu'ils ont remportée sur le territoire de Canaan. Dieu leur avait promis d'être avec eux dans ces combats et ils le prouvent. Ils ont tourné autour de la ville et les murailles se sont détruites. Victoire éclatante. Et puis, Il y avait une petite ville à côté. Aïe. Aïe, aïe, aïe. On connaît cette histoire. La défaite a commencé déjà avant, en fait. La défaite avait commencé non pas lorsqu'ils ont décidé de prendre cette ville, mais elle avait commencé déjà dans la victoire de Jéricho, puisque un homme avait pris des choses interdites. Mais en plus de cela, cette victoire de Jéricho, plutôt que de rendre grâce à Dieu de tout leur cœur et de s'en remettre à Dieu pour les autres combats qu'ils allaient avoir, cette victoire, eh bien, a mis dans leur cœur une certaine autosuffisance. C'est vrai qu'il y a eu un homme qui a péché, Achan. Sa femme aussi étant complice. Mais le reste du peuple était dans une autosuffisance, à tel point même qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel pour savoir comment ils devaient faire. Et là, il s'est passé quelque chose de terrible, c'est qu'ils ont connu un coup d'arrêt terrible. À ce moment-là, bien sûr, ils ont consulté l'Éternel. Et lorsque nous passons notre confiance en nous-mêmes, au lieu de la placer dans le Seigneur, lorsqu'après avoir été grisé par quelques victoires, par une avancée spirituelle, on se dit, maintenant, plus rien ne m'arrête. Sauf que, quand on commence comme cela, on oublie que sans le Seigneur, encore une fois, on ne peut rien faire. Et que si on a réussi certaines choses, c'est bien parce que la grâce de Dieu était avec nous. Et qu'encore aujourd'hui, si nous voulons aller jusqu'au bout, jusqu'au jour où nous aurons achevé la course, nous avons plus que jamais encore besoin du Seigneur. Il nous reste tant à faire. Tant à faire pour le salut des âmes, tant à faire pour gagner cette ville de Toulouse, tant à faire. Seigneur, nous voulons compter sur toi pour la suite et non pas compter sur nous. Mon dernier point est un peu, dissonant par rapport à tout ce que je viens de dire. Le dernier point, c'est les coups d'arrêt que Dieu peut nous donner. Or, ceux-là, ils sont positifs. Dieu peut nous arrêter dans notre course. Et parfois, ça peut être même un peu brutal. Mais c'est toujours positif et toujours salutaire. Les coups d'arrêt qui viennent de notre chair, les coups d'arrêt qui viennent de mauvaises influences, ceux-là sont destructeurs. Dans le psaume 46, verset 9. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. C'est aussi quelque part pour nous réconfortant dans un monde, une génération où il y a des guerres et des bruits de guerre, nous le savons un jour. Dieu mettra un point final à toutes ces guerres. Mais il y a des combats qui sont charnels aussi. Nous pouvons utiliser des arcs pour envoyer des flèches, des piques aux autres, des lances. On peut utiliser même la parole de Dieu pour détruire quelqu'un, pour l'accuser de certaines choses. Et là, Dieu intervient. Arrêtez. Quelque part, Dieu met le poing sur la table. Maintenant, c'est fini. Hein. La cour de récréation est terminée. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Celui à qui nous devons rendre compte est au milieu de nous et il est saint. Arrêtons, laissons tomber nos armes, nos paroles destructrices, nos gestes menaçants et comprenons que celui qui est saint est au milieu de nous. Alléluia. Nous courons et nous voulons courir jusqu'au bout. Mais ne nous trompons pas de course. Si nous nous trompons de course, le Seigneur saura nous arrêter, mais c'est toujours pour notre bien. À lui soit toute la gloire. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu sais nous arrêter et nous voulons t'en bénir. Pour ces fois où tu nous as dit stop. Merci Seigneur parce que tu sais parler à nos cœurs. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, nous arrêter sur le bord du chemin. Seigneur, à cause de nos attitudes, à cause de certaines affluences. Mais nous voulons vraiment, Seigneur, garder en vue cette ligne d'arrivée afin de pouvoir dire « j'ai achevé la course ». Merci, tu relèves, Seigneur, celui qui est fatigué, celui qui est au bord du chemin, qui est essoufflé. Seigneur, tu es celui qui vient à ses côtés, qui renouvelle ses forces. Ceux qui sont à bout dans leur lieu de travail, ceux qui sont à bout dans leur maladie, ceux qui sont dans le désespoir, ceux qui en pensent même en finir avec la vie. Seigneur, tu les relèves. Tu les relèves et tu les aides à continuer la course. À toi soit toute la gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce que tu vas faire. Merci Jésus. Amen.